Chapitre 14, Frère Boromée. Lorsque Chico, soutenant le révérend prieur, arriva par le grand escalier dans la cour du prieuré, le coup d'œil fut exactement celui d'une immense caserne en pleine activité. Partagée en deux bandes de 100 hommes chacune, les moines, la hallebarde, la pique ou le mousquet au pied, attendaient, comme des soldats, l'apparition de leur commandant. 50 à peu près, parmi les plus forts et les plus ailés, avaient couvert leurs têtes de casques ou de salades. Une ceinture attachait à leurs reins une longue épée. Il ne leur manquait absolument qu'un bouclier de main pour ressembler aux anciens Mèdes, ou des yeux retroussés pour ressembler à des Chinois modernes. D'autres étalaient avec orgueil des cuirasses bombées sur lesquelles ils aimaient à faire bruire un gantelet de fer. D'autres, enfin, enfermés dans des brassards et dans des cuissards, s'exerçaient à développer leurs jointures privées d'élasticité par ces carapaces partielles. Frère Boromée prit un casque des mains d'un novice et se le posa sur la tête par un mouvement aussi prompt, aussi régulier que l'eût pu faire un reître ou un lansquenet. Tandis qu'il en attachait les brides, Chico ne pouvait s'empêcher de regarder le casque. Et tout en le regardant, sa bouche souriait. Enfin, tout en souriant, il tournait autour de Boromée, comme pour l'admirer sur toutes ses faces. Il fit plus, il s'approcha du trésorier et passa la main sur une des inégalités du home. « Vous avez là un magnifique armée, frère Boromée, dit-il. Où l'avez-vous donc acheté, mon cher prieur ?» Goronflot ne put répondre, parce que, en ce moment, on l'attachait dans une cuirasse resplendissante, laquelle, bien que spacieuse à loger l'Hercule Farnèse, étreignait douloureusement les ondulations luxuriantes de la chair du digne prieur. « Ne bridez pas ainsi, morbleu !» s'écriait Goronflot. « Ne serrez pas de cette force, j'étoufferai, je n'aurai plus de voix, assez, assez !» Vous demandiez, je crois, au réveillant prieur, dit Boromée, où il avait acheté son casque. Je demandais cela au révérend prieur, et non à vous, reprit Chico, parce que je présume qu'en ce couvent, comme dans tous les autres, rien ne se fait que sur l'ordre du supérieur. Certainement, dit Goronflot, rien ici ne se fait que par mon ordre. Que demandez-vous, cher monsieur Briquet? Mais je demande à frère Boromée s'il sait d'où vient ce casque. Il faisait partie d'un lot d'armure que le révérend prieur a acheté hier pour armer le couvent. « Moi ? » fit Goronflot. « Votre seigneurie a commandé, elle se le rappelle, que l'on apportât ici plusieurs casques et plusieurs cuirasses, et l'on a exécuté les ordres de votre seigneurie. »« c'est vrai, » dit Goronflot. « Ventre de biche, » dit Chico, « mon casque était donc bien attaché à son maître, qu'après l'avoir conduit moi-même à l'hôtel de Guise, il vienne comme un chien perdu me retrouver au prieuré des Jacobins. » En ce moment, sur un geste de frère Boromée, les lignes se faisaient régulières et le silence s'établit dans les rangs. Chico s'assit sur un banc afin d'assister à son aise aux manœuvres. Goronflot se tint debout, d'aplomb sur ses jambes comme sur deux poteaux. « Attention, » dit tout bas frère Boromée. Don Modeste tira un sabre gigantesque de son fourreau de fer et, le brandissant en l'air, il cria d'une voix de stentor « Attention !»« Votre révérence se fatiguerait peut-être de faire les commandements, » dit alors frère Boromée avec une douce prévenance. « Votre révérence souffrait ce matin. S'il lui plaît de ménager sa précieuse santé, je commanderai aujourd'hui l'exercice. « Je le veux bien, » dit Don Modeste. « En effet, je suis souffrant. J'ai tout. Allez !» Boromée s'inclina, et en homme habitué à ces sortes de consentements, il vint se placer au front de la troupe. « Quel serviteur complaisant, » dit Chico, « c'est une perle que ce gaillard-là. »« Oh, il est charmant, je te le disais bien, » répondit Don Modeste. « Je suis sûr qu'il te fait la même chose tous les jours, » dit Chico. « Oh, tous les jours, il est soumis comme un esclave. » Je ne fais que lui reprocher ses prévenances. L'humilité n'est pas la servitude, ajouta sentencieusement Gorenflot. En sorte que tu n'as vraiment rien à faire ici et que tu peux dormir sur tes deux oreilles. Frère Borromée veille pour toi. Oh mon Dieu, oui. Voilà ce que je voulais savoir, dit Chico, dont l'attention se porta sur Borromée tout seul. C'était merveille que de voir, pareil à un cheval de guerre, se redresser sous le harnais le trésorier des moines. Son œil dilaté lançait des flammes, son bras vigoureux imprimait à l'épée des secousses tellement savantes qu'on eût dit un maître en fait d'armes s'escrimant avec un peloton de soldats. Chaque fois que Borromée faisait une démonstration, Gorenflot la répétait en ajoutant « Ah, Borromée a raison, mais je vous ai déjà dit cela, moi. Rappelez-vous donc ma leçon d'hier. Passez l'arme d'une main dans l'autre, soutenez la pique, soutenez-la donc. Le fer à la hauteur de l'œil. Ah, de la tenue, par Saint-Georges du Jarret. Demi-tour à gauche est exactement la même chose que demi-tour à droite, excepté que c'est tout le contraire. » « Ventre de biche, dit Chico, tu es un habile démonstrateur. »« Oui, oui, fit Gorenflot en caressant son triple menton, j'entends assez bien la manœuvre. »« Tu as dans Borromée un excellent élève. »« Il m'a compris, dit Gorenflot, il est, on ne peut plus intelligent. » Les moines exécutèrent la course militaire, sorte de manœuvre fort en vogue à cette époque, les passes d'armes, les passes d'épée, les passes de pique et les exercices à feu. Lorsqu'on en fut à cette dernière épreuve, « Tu vas voir mon petit Jacques, » dit le prieur à Chico. « Qu'est-ce que c'est que ton petit Jacques ?»« Un gentil garçon que j'ai voulu attacher à ma personne parce qu'il a des dehors calmes et une main vigoureuse, et tout cela avec la vivacité du salpêtre. »« Ah, vraiment, et où donc est-il, ce charmant enfant ?»« Attends, attends, je vais te le montrer. »« Ah, tiens, là-bas, celui qui tient un mousquet à la main et qui s'apprête à tirer le premier. » »« Et il tire bien. » »« Oh, c'est-à-dire qu'à 100 pas, le drôle ne manque pas un noble à la rose. » « Ah, voilà un gaillard qui doit vertement servir une messe, mais attends donc à ton tour. »« Quoi donc ? Mais si, mais non, tu connais mon petit Jacques ? Moi, pas le moins du monde. »« Mais tu croyais le connaître d'abord ?»« Oui, il me semblait l'avoir vu dans certaines églises un jour, ou plutôt une nuit, que j'étais enfermé dans un confessionnal. »« Ah, mais non, je me trompais, ce n'était pas lui. » Cette fois, nous devons l'avouer, les paroles de Chico n'étaient pas exactement d'accord avec la vérité. Chico était trop bon physionomiste quand il avait vu une figure une fois pour oublier jamais cette figure. Pendant qu'il était sans s'en douter l'objet de l'attention du prieur et de son ami, le petit Jacques, comme l'appelait Gorenflot, chargeait en effet un mousquet pesant, long comme lui-même, et puis le mousquet chargé, il vint se camper fièrement à 100 pas du but, et là, ramenant sa jambe droite en arrière avec une précision toute militaire, il ajusta. Le coup partit et la balle alla se loger au milieu du but, au grand applaudissement des moines. « Tutieux, c'est bien visé, dit Chico, et sur ma parole, voilà un joli garçon. »« Merci, monsieur, répondit Jacques, dont les joues pâles se colorèrent d'une rougeur de plaisir. « Tu manies les armes habilement, mon enfant, reprit Chico. »« Mais, monsieur, j'étudie, fit Jacques. » Et sur ces mots, laissant son mousquet inutile après la preuve d'adresse qu'il avait donnée, il prit une pique des mains de son voisin et fit un moulinet que Chico trouva parfaitement exécuté. Chico renouvela ses compliments. « Oh, c'est surtout à l'épée qu'il excelle, dit Don Modeste. Ceux qui s'y connaissent le jugent très fort. Ah, il est vrai que le drôle a des jarrets d'acier, des poignets d'acier, et qu'il gratte le fer depuis le matin jusqu'au soir. »« Ah, voyons cela, dit Chico. Vous voulez essayer sa force, dit Borromée. Ah, je voudrais en voir la preuve, répondit Chico. » « Ah !» continua le trésorier, « c'est qu'ici, personne, excepté moi peut-être, n'est capable de lutter contre lui. Êtes-vous d'une certaine force, vous ? Je ne suis qu'un pauvre bourgeois, dit Chicot en secouant la tête. Autrefois, j'ai poussé ma brette comme un autre, mais aujourd'hui, mes jambes tremblent, mon bras vacille et ma tête n'est plus fort présente. Mais cependant, vous pratiquez toujours, dit Borromée. Un peu, répondit Chicot, en lançant à Gorenflot, qui souriait, un coup d'œil qui arracha aux lèvres de celui-ci le nom de Nicolas David. Mais Borromée ne vit point le sourire. Borromée n'entendit pas le nom, et avec un sourire plein de tranquillité, il ordonna qu'on apportât les fleurets et les masques d'escrime. Jacques, tout en pétillant de joie sous son enveloppe froide et sombre, releva sa robe jusqu'aux genoux et assura sa sandale sur le sable en faisant un appel. Décidément, dit Chicot, comme n'étant ni moine ni soldat, il y a quelque temps que je n'ai fait les armes, veuillez, je vous prie, frère Borromée, vous qui n'êtes que muscles et tendons, donnez la leçon à frère Jacques. Y consentez-vous, cher prieur? Demanda Chicot à Don Modeste. Je l'ordonne, déclama le prieur, toujours enchanté de placer un mot. Borromée ôta son casque, Chicot se hâta de tendre les deux mains, et le casque déposé entre les mains de Chicot permit de nouveau à son ancien maître de constater son identité. Puis, tandis que notre bourgeois accomplissait cet examen, le trésorier relevait sa robe dans sa ceinture et se préparait. Tous les moines, animés de l'esprit de corps, vinrent faire cercle autour de l'élève et du professeur. Gorenflot se pencha à l'oreille de son ami. C'est aussi amusant que de chanter vêpres, n'est-ce pas? Dit-il naïvement. C'est ce que disent les chevaux légers, répondit Chicot avec la même naïveté. Les deux combattants se mirent en garde. Borromée, sec et nerveux, avait l'avantage de la taille. Il avait en outre celui que donne l'aplomb et l'expérience. Le feu montait par vives lueurs aux yeux de Jacques et animait les pommettes de ses joues d'une rougeur fébrile. On voyait peu à peu tomber le masque religieux de Borromée, qui, le fleuret à la main, emporté par l'action si entraînante de la lutte d'adresse, se transformait en homme d'armes. Il entremêlait chaque coup d'une exhortation, d'un conseil, d'un reproche. Mais souvent, la vigueur, la promptitude, l'élan de Jacques triomphaient des qualités de son maître, et frère Borromée recevait quelques bons coups en pleine poitrine. Chicot dévorait le spectacle des yeux et comptait les coups de bouton. Lorsque l'assaut fut fini, ou plutôt lorsque les tireurs firent une première pause, Jacques a touché 6 fois, dit Chicot, frère Borromée, 9. C'est fort joli pour l'écolier, mais ce n'est point assez pour le maître. Un éclair inaperçu à tout le monde, excepté à Chicot, passa dans les yeux de Borromée et vint révéler un nouveau trait de son caractère. Bon, pensa Chicot, il est orgueilleux. Monsieur, répliqua Borromée d'une voix qu'à grand-peine il parvint à faire doucereuse, l'exercice des armes est bien rude pour tout le monde, et surtout pour des pauvres moines comme nous. N'importe, dit Chicot, décidé à pousser maître Borromée jusqu'en ses derniers retranchements. Le maître ne doit pas avoir moins de la moitié en avantage sur son élève. Ah, monsieur Briquet, fit Borromée tout pâle en se mordant les lèvres, vous êtes bien absolu, ce me semble. Bon, il est en colère, pensa Chicot. Deux péchés mortels, on dit qu'un seul suffit pour perdre un homme, j'ai beau jeu. Puis tout haut. Et si Jacques avait été plus calme, continua-t-il, je suis certain qu'il ferait un jeu égal. Je ne crois pas, dit Borromée. Eh bien, j'en suis sûr, moi. Monsieur Briquet, qui connaît les armes, dit Borromée avec un ton amer, devrait peut-être essayer la force de Jacques par lui-même, il s'en rendrait mieux compte alors. Oh, moi, je suis vieux, dit Chicot. Oui, mais savant, dit Borromée. Ah, tu railles, pensa Chicot. Attends, attends. Mais, continua-t-il, il y a une chose qui ôte de la valeur à mon observation. Laquelle? C'est que frère Borromée, en digne maître, ah, j'en suis sûr, laissait toucher Jacques un peu par complaisance. Ah, fit Jacques à son tour en fronçant le sourcil. Non, certes, répondit Borromée en se contenant, mais exaspéré au fond. J'aime Jacques, certainement, mais je ne le perds point avec ces sortes de complaisances. C'est étonnant, fit Chico, comme en se parlant à lui-même. Je l'avais cru. Excusez-moi. Mais enfin, vous qui parlez, dit Borromée, essayez donc, monsieur Briquet. Oh, ne m'intimidez pas, dit Chico. Soyez tranquille, monsieur, dit Borromée, on aura de l'indulgence pour vous, on connaît les lois de l'Église. Païen, murmura Chico. Voyons, monsieur Briquet, une passe seulement. Essaye, dit Gorenflot, essaye. Je ne vous ferai point de mal, monsieur, dit Jacques, prenant à son tour le parti de son maître et désirant de son côté donner un petit coup de dent. J'ai la main très douce. Cher enfant, murmura Chico, en attachant sur le jeune moine un inexprimable regard qui se termina par un silencieux sourire. Voyons, dit-il, puisque tout le monde le veut. Ah, bravo! Firent les intéressés avec l'appétit du triomphe. Seulement, dit Chico, je vous préviens que je n'accepte pas plus de 3 passes. Comme il vous plaira, monsieur, dit Jacques. Et se levant lentement du banc sur lequel il était retourné s'asseoir, Chico serra son pourpoint, passa son gant d'arme et assujettit son masque avec l'agilité d'une tortue qui attrape des mouches. Si celui-là arrive à la parade sur tes coups droits, souffla Borromée à Jacques, je ne fais plus assaut avec toi, je t'en préviens. Jacques fit un signe de tête, accompagné d'un sourire qui signifiait Soyez tranquille, maître. Chico, toujours avec la même lenteur et la même circonspection, se mit en garde, allongeant ses grands bras et ses longues jambes, que, par un miracle de précision, il disposa de manière à en dissimuler l'énorme ressort et l'incalculable développement.